Eh bien, bonjour à tous, bienvenue à cette table ronde qui est consacrée aux faux-semblants du pouvoir, les représentations de la vie politique dans la science-fiction, un vaste sujet. Je vais rapidement vous présenter nos invités. On ne présente plus vraiment Norman Spinrad, qui est un des géants de la science-fiction américaine, qui depuis 50 ans traque justement le politique au sein de la science-fiction, avec des romans aussi divers que Jack Baron et l'éternité, Rêve de fer, Ces hommes dans la jungle, Le printemps russe, qui a donc souvent abordé ce thème, qu'il traite d'écologie, de terrorisme, des sectes, des médias, etc. Il revient souvent à une vision politique, et il nous expliquera sans doute pourquoi. Ajoutons en plus qu'il va s'exprimer en français. Depuis des années et des années, il vit à Paris et à New York, mais maintenant surtout à Paris. Fabien Wellman est scénariste de BD, qui est une carrière qu'il a, si j'ai bien compris, sauvée de l'école de commerce.
Oui, c'est ça. Oui.
Il est associé au magazine Spirou depuis une petite vingtaine d'années. Il a d'ailleurs repris le personnage éponyme. Mais il est aussi, surtout, l'auteur de la série Seul, qui met en scène des bandes d'enfants se retrouvant apparemment dans un monde déserté des adultes. J'indiquerai qu'on se rapproche davantage au niveau ambiance de Sa Majesté des Mouches que de 2 ans de vacances. Fred Duval est lui aussi scénariste de BD. Très prolifique, il signe notamment les séries Travis et McCallum, ainsi que leur série dérivée, qui se situe dans un espèce d'univers de futur à moyen terme, disons, où en gros les multinationales ont véritablement pris le pouvoir, ce qui veut dire que ça ressemble pas du tout à notre monde actuel. Et enfin, Olivier Paquet, qui lui a vraiment de droit sa place sur cette table ronde, parce qu'il est docteur en sciences politiques. C'est le pan avouable de ses activités. Le pan inavouable, c'est qu'il est aussi, pour son malheur, écrivain de science-fiction. Notamment, il est édité notamment par l'Atalante, le local de l'étape. Sa série Dumelkin a eu l'an dernier, je crois, le prix Julia Verlanger pour l'ensemble de la trilogie. Il a signé d'autres romans pour les adultes comme pour la jeunesse. Et il est auteur de quelques nouvelles, dont Synesthésie, qui lui avait valu le Grand Prix de l'Imaginaire il y a quelques années. Voilà. Alors, le grand public, disons, a souvent l'idée d'une science-fiction comme d'une littérature d'évasion, de grands espaces, d'images. La guerre des étoiles, mettons, par exemple. Mais donc, ce public peut se demander, à juste titre, éventuellement, si la science-fiction peut être politique. Ben, ma foi, j'ai envie de me retourner vers Norman et de lui demander « Can science fiction be political and should it be ?»
Vous préférez le français mauvais ou l'anglais bien? Pour l'anglais bien comme ça, et pour le français, rien du tout. OK. this I have to say in French because it doesn't make sense in English. C'est la différence entre politique et politicienne. And that's a distinction that doesn't very hard to explain in English, but everybody here understands this. As a writer of science fiction, you are creating fictional cultures. And you cannot imagine a fictional culture without the cultural politics of that culture, or even the politicienne of that culture. So what I say about what I do, again, je résote à la française parce que je ne suis pas un écrivain engagé de politique à le niveau politicienne. But politique, this is part of culture. This is part of culture. You cannot create a world without its politics, its political structure. But also, in another kind of way, everything cultural is political. I don't think you can even do space opera that doesn't have a political context and a political meaning. My very first novel was Les Sorolariens, which, whatever it is, was a space opera of a kind, I think fairly sophisticated, but there are a lot of people who paid attention to the political, social level of the idea of the organic group as opposed to family setup and stuff like that. So I don't think you can really write serious science fiction without dealing with the cultural politics levels and sometimes with the politician or see my latest book, I might as well plug a book, Le Police du Peuple is direct, is very, very specifically political too. And I don't think you can really entirely avoid that and write real real science fiction that's a real novel.
Fred, c'est pareil, vous écrivez essentiellement, enfin je dis écrire, oui, si vous scénarisez avez... essentiellement oui. Des séries de space opera, on va, enfin à la base, enfin pas de space opera,
non,
mais
de
cyberpunk, de science-fiction à moyen terme, on est dans la deuxième moitié du 21e siècle essentiellement, et c'est pareil, j'ai l'impression que votre... Même si c'est pas le si c'est pas immédiatement, enfin si c'est immédiatement apparent quand même qu'il y a un véritable substrat politique, et je pense que expliquez-nous pourquoi vous avez choisi cette approche, notamment de mettre en valeur, enfin en lumière, pardon, en lumière le rôle des multinationales, le rôle de l'économique, disons, dans un univers fictif.
Fictif, c'est vraiment une projection que je me suis amusé à faire en consultant beaucoup de prospectives, de bouquins de prospectives, en lisant beaucoup la presse, en lisant la presse scientifique. En fait, la politique, c'est la cité. Donc, on revient toujours à décrire quand on s'interroge sur l'avenir.
En fait,
pour
on est toujours en train de parler tantôt de la politique et du politique.
Oui.
Et effectivement, alors, on est plutôt là sur le politique.
Voilà,
on est d'accord. Ce que disait Norman.
Voilà, donc s'interroger sur la vie de la cité, ça me paraît être la moindre des choses pour un scénariste, un écrivain. On est toujours dans la réflexion de la vie en société, donc de ces évolutions. Le rôle du politique là-dedans, oui, il consiste à souvent relever. Une tendance actuelle qui est de voir la possibilité d'action du politique, son champ d'action se réduire. Il n'empêche que le politique a pour moi encore du pouvoir. Il ne faut pas croire qu'il a perdu tout pouvoir. Simplement, les choses se transforment, les choses évoluent. Et moi, ce qui m'intéressait dans cette réflexion-là, c'était de voir toujours amener ça aux humains, c'est-à-dire l'humain, comment il va se comporter dans une société où finalement le marché contrôle tout. Voilà, ça c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est la base de la plupart des romans cyberpunk. Mais donc le politique là-dedans, pour moi, c'est quelque chose de très général. Ça va de notre attitude face aux problèmes écologiques qui se présentent à nous dès aujourd'hui, et dans lequel, oui, d'accord, le politique perd du terrain, mais le politique aujourd'hui est vraiment en capacité aussi d'agir. On voit ce qui va se passer dans les semaines à venir. On va vraiment avoir une réunion politique. Et une réunion politique qui concerne l'ensemble de la planète. Voilà. Donc les gens qui nous représentent gardent encore, à mon sens, un pouvoir, une responsabilité énorme. Je ne sais pas ce qu'en pensent mes confrères, mais voilà, tout le débat, à mon avis, va tourner autour de ça.
Tout à fait. Pour rester un petit peu dans les univers visuels pour l'instant, de même, Fabien, on pourrait imaginer qu'une série mettant en scène des enfants... livrés à eux-mêmes dans un monde apparemment déserté par les adultes pourraient ne pas forcément parler de politique. Le problème, par exemple, c'est que ces enfants... Enfin, le problème. La problématique, c'est que ces enfants vont très vite former des clans et tout de suite, on va se retrouver, en fait, dans une situation où, en tout cas, les opinions et, d'une certaine manière, la philosophie apparaît tout de suite.
Oui, moi j'ai l'impression que déjà ça s'appelle seul avec un S, donc c'est ils sont des individus séparés mais sont ensemble, et je crois que là on parle de la politique dès le début, c'est-à-dire que c'est ce qui me passionne dans la question du politique, c'est le vivre ensemble, alors même qu'a priori c'est presque impossible, qu'on voit même qu'à l'échelle d'une famille on peut se détester, qu'à l'échelle d'un groupe d'amis on peut se détester, alors quand il s'agit d'une société entière, d'un pays, je ne parle même pas de politique planétaire, c'est autant de raisons que ça parte en couille, enfin pour le dire de manière un peu rapide. Et du coup, dans Seul, c'est effectivement finalement c'est un des propos de fond. Mais une fois de plus, comme Fred le disait pour le cyberpunk, moi vis-à-vis de ce que j'appellerais une Robinsonade, j'invente rien. Ça fait partie presque de manière inhérente du genre et en particulier du modèle que tu citais, qui est Sa Majesté des Mouches de Golding. C'est un récit politique. D'ailleurs, je pense pas que Golding l'avait écrit pour les enfants. au départ, il voulait montrer ce que des enfants livrés à eux-mêmes, plutôt des garçons dans le cas de ce roman, recréer presque malgré eux, et à savoir des hiérarchies, à savoir des segmentations dans le groupe, et in fine une guerre et des morts, donc en fait un droit de vie et de mort sur le reste du groupe. Moi, enfant, quand j'ai lu ça, ça a été un choc philosophique. En fait, je me suis dit, enfin quelqu'un qui me parle de ce que je crois être notre société à n'importe quelle échelle, que ce soit dans une cour de récréation ou à l'échelle d'un pays. Moi, j'étais un peu plus au courant de la cour de récréation quand j'étais petit, mais je crois que je pressentais qu'il disait quelque chose de très juste. Et de là, je mettais pas le mot politique dessus à l'époque, mais je crois que simplement, je me disais, c'est pertinent. Il est en train de parler de quelque chose de pertinent. Donc c'est vrai que dans Seul, je pense que c'est un récit extrêmement politique. Alors pour faire un tout petit aparté, je crois que tout récit est politique. On parle de la science-fiction, mais pour moi, faire de l'humour, par exemple, commencer à dire, tiens, je fais rire au détriment d'eux, ou pour, ou avec, c'est déjà politique. Tout récit qui met en place un méchant est politique. Moi, c'est quelque chose que je donne quelques rares cours de scénario à des jeunes étudiants. Je leur dis, si vous décidez qu'un personnage est un méchant, déjà, expliquez-moi ce que vous appelez un méchant. Est-ce que c'est il est méchant depuis toujours ? Est-ce qu'il a été transformé en méchant par la société ? Et déjà, c'est un point de vue sur le monde. Et pour moi, la politique, c'est un point de vue sur le monde. Même la politique politicienne, bon, dont on connaît malheureusement les aspects les plus pervers, mais je veux croire, à tort ou à raison, qu'au départ, il y a là-dedans des gens qui ont cru à leur métier du politique, qui ont des convictions qu'ils sont. Et donc, une conviction, c'est quoi ? C'est une vision du monde. Si je suis intimement persuadé que l'ennemi, c'est l'immigré. Là, je pars c'est un scénario de science-fiction, attention, avant de me faire lyncher. Mais imaginons que je sois un représentant politique qui dit, pour moi, l'ennemi, c'est l'immigré, et que c'est ma vision du monde, et que j'en suis intimement persuadé. Je vais défendre cette vision du monde via la politique politicienne. Mais je crois qu'avant, il y a une conviction, que dans le cas présent, je ne partage pas, mais que je peux comprendre d'un point de vue humain. Donc, en fait, tout ce travail sur l'imaginaire personnel, la vision du monde, qui recoupe d'ailleurs une autre conférence sur le rapport à l'imaginaire et au réel, c'est à partir du moment où on est convaincu de quelque chose et qu'on veut le prôner dans un sens politique, même par une politique politicienne, on est dans le politique aussi, qui après, malheureusement, va prendre des formes qui sont souvent un peu plus désabusées, parce qu'en fait, c'est très machiavélique. Il faut, pour obtenir tel effet, un coup en trois bandes, et tout l'aspect, justement, machiavélique qu'on connaît. Mais pour moi, soit on le traite comme un sujet à part entière, je parle de la politique politicienne, soit on le traite comme un sujet à part entière dans un récit, une fiction, et on fait Borgen, ou on fait des séries qui vont décortiquer cette politique politicienne, et c'est passionnant, ou dans une moindre mesure peut-être, mais The Wire, qui décortiquait la politique à l'échelle d'une ville.
Sur écoute en français.
Soit on fait de la science-fiction ou du récit qui est du politique au sens large du terme, mais quand même pour préciser qu'à mon avis la science-fiction a un rôle à part, c'est que pour moi la science-fiction c'est le lieu de l'utopie. Et l'utopie, c'est justement le lieu qui n'existe pas encore, qu'on veut projeter, dont on veut tester les limites. D'où l'intérêt des dystopies aussi, qui disent, tiens, ce mode de vie politique auquel on pourrait croire, à l'instant T, parce qu'on pense qu'il est positif, on se rend compte, si on le pousse à l'extrême, qu'il devient un cauchemar, façon Bienvenue à Gattaca, façon, enfin, toutes les dystopies.
Oui, le meilleur des mondes, enfin.
Exactement. Donc, je crois qu'effectivement, il y a quand même un lien très particulier. Je disais que tous les récits étaient politiques. Je pense quand même qu'il y a un lien très très fort de filiation, de presque familiarité entre la science-fiction et la politique, bien entendu.
Alors ce lien entre science-fiction et politique, c'est souvent exprimé dans la science-fiction française, notamment historiquement dans une période qui allait en gros de mai 68 à l'élection de François Mitterrand. Et j'ai envie de demander à Olivier Paquet, qui est quelqu'un d'une génération ultérieure, qu'est-ce qu'il a pu retenir de ça ? Qu'est-ce qu'il a pu surtout tirer ? Olivier, tu as travaillé sur la, si je me souviens bien, sur la République tchèque avant-guerre, avant la Seconde Guerre mondiale. Voilà, tu as fait ta thèse de doctorat là-dessus, si je me souviens bien. Par ailleurs, tu es un admirateur éhonté de Ursula Le Guin, qui est quand même un des auteurs les plus politiques du domaine. Donc j'ai envie de te demander quels sont les apports que t'as donné cet éclairage multiple et protéiforme sur ton propre travail, étant entendu que, par exemple, ta série du Malkin, a priori, pourrait être considérée comme de la littérature d'évasion. Ouais. A priori.
Alors, c'est une vaste question. Oui, non, mais on va y arriver. Effectivement, il y a une chose, c'est que donc j'ai fait une thèse de sciences politiques. Et donc, mon approche de la politique, elle est d'une certaine manière scientifique. J'essaye de mettre en scène dans mes romans, j'ai souvent de faire une sorte de laboratoire, d'exposer une idée de science politique dans un monde que je vais créer. Mon premier roman, donc Structura Maxima, en fait, a eu beaucoup, j'ai beaucoup pris de ma thèse dessus. Dans le sens où ça montrait, ce que je voulais montrer, c'est justement parler des politiques politiciennes, c'est comment des gens modérés peuvent aller vers des positions extrêmes pour éviter de perdre le pouvoir. C'est des mécanismes comme ça où on voit des gens tout à fait modérés, raisonnables et autres, et qui vont atteindre des extrêmes, qui vont aller à la guerre ou choses comme ça, alors, mais parce que ils ont en dessous des gens plus extrêmes et qu'ils sont obligés, pour éviter que tout parte dans l'anarchie la plus totale, on est ça. Il y a une chose, moi j'ai une vision de la politique scientifique, si j'ose dire. Je vois la politique, c'est pas uniquement comme la cité, c'est que pour moi la politique c'est une sorte d'interface. Une interface entre quoi ? Entre la population, les citoyens, les individus et les moyens d'action. Et donc la politique, ça évite que les individus, ça évite la guerre civile. Hein, donc ça gère ça. Et dans mes romans, et on parlait du Melkin, j'essaie de créer des mondes où le politique est absent. C'est un peu un paradoxe, et alors que je suis baigné dans la politique et autres, j'essaie de créer des mondes où le politique est absent. Dans le Melkin, par exemple, donc, c'est des univers où les gens vivent sur des planètes, mais en fait, ce qui va gérer les ressources, qui va redistribuer les ressources, ce sont des intelligences artificielles. Donc, les humains ne gèrent plus la politique telle qu'on a l'habitude, et donc ces mondes sont figés grâce aux intelligences artificielles. Et en fait, toute l'histoire du Melkin, c'est aussi, d'une certaine manière, comment le politique va revenir dans le jeu, à partir du moment où dans cet univers de space opéra, on va inventer la communication instantanée. Pour citer Ursula Le Guin est assez célèbre parce qu'elle a inventé l'ancible, qui est la communication instantanée. Donc, j'ai repris ça. Il y a aussi un autre auteur très important à mes yeux en science-fiction, qui est Ian Banks, avec son cycle de la culture, qui a inventé un univers qui est une sorte d'utopie. J'aime bien le mot que Gérard Klein décrit, c'est une assez bonne utopie, ce qui évite que cette utopie aille vers la dystopie. Et c'est un univers où en fait les moyens de production sont tellement excessifs, tellement démentiels, que produire un vaisseau spatial ou un stylo, c'est équivalent, donc la monnaie n'existe plus. Les ressources sont distribuées comme on veut, il n'y a plus de problème, donc plus de monnaie, plus de valeur travail, on ne travaille plus. Et qu'est-ce qu'on fait de sa vie quand on est habitant de la culture ? On passe sa vie au fun, à tout ce qui est cool, des fêtes, voyager, etc. Et ça, c'est un truc très politique, en fait. Hein. J'essayais aussi d'utiliser ça dans le making, d'utiliser un univers où l'argent n'est plus quelque chose, le travail, etc., n'est plus, et que, en fait, les cultures sont la monnaie d'échange, finalement, dans cet univers.
Je vais revenir à Norman, parce que Norman est un... Enfin, je dis ça avec beaucoup de respect, mais c'est un pur produit des 60s, des années 60. Vous avez commencé à publier en 1963, très bonne année, puisque c'est l'année où moi je suis né. Et vous avez, dans vos premiers romans, vous parliez des Solariens. Moi, je voudrais m'attarder un tout petit peu sur un roman qui vient de reparaître chez Milady, qui s'appelle « Ces hommes dans la jungle », qui s'appelait auparavant « Men in the Jungle
».
The Men in the Jungle.
Les hommes dans la jungle.
Les hommes dans la jungle. Et c'est un roman qui décrit un homme politique, on va dire, un politicard, comme on dirait en français, un politicien, qui est chassé du pouvoir sur une espèce de planétoïde qu'il avait conquis, et qui décide pour se trouver une base arrière et pour assurer son avenir, de trouver une espèce de planète un peu arriérée, etc., où il espère, en arrivant, à nouveau prendre le pouvoir, et où ça ne va pas se passer exactement comme on pourrait l'imaginer. Alors, on a là du space opéra, pour le décor, mais c'est un roman très très politique qui parle des révolutions dans le tiers-monde, j'ai l'impression, du Vietnam, peut-être un peu. Donc j'aimerais savoir quelle était votre intention quand vous avez écrit ce roman.
Pardon un peu, les hommes de la jungle, c'est directement, whatever language I'm speaking, so it's directly inspired by the Vietnam War and what Che Guevara was trying to do in Bolivia, which was having won the Cuban Revolution to start a revolution, find some place to do it again, which he failed to do and got killed. So that, I think, is an example of how I did take current politics and transform it into something somewhat more general. Take something like Jack Baron. It's very specific. It's the Republicans. It's the Democrats. It's what's happening right now in the United States with Donald Trump. But, you know, yeah. I mean, if you combine Donald Trump with somebody who's better on television and is not a right winger, that's Jack Baron. This was at the Republican Party is destroying itself. It's becoming a minority party. That is admittedly politique politicienne. And some of my stuff is like that. Greenhouse Summer, Bleu Comme un Orange, is also not that kind of, but it's somewhere in between. It's the politics of climate change, but also the morality of dealing with things like this. So, again, I don't think you could ignore politics. What do we mean by politics? I don't think we've really gone into what we really mean by politics. You know, politique, politicienne. And I think politics, in its most general definition, is the relationship between the power structure, whether it's democratic or not, and the population. That's the largest definition of politics, really. And I don't see how you can write much of a rounded novel without dealing with the relationship between the power structure and the population. That's fundamental. This is one of the reasons I think that I write speculative fiction, because so much of so-called modern mainstream fiction ignores this. It's small, or as I used to say, science fiction deals with galactic blah 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 on a superficial manner, and literary fiction deals with very sophisticated style and so forth, investigating the lint in its own navel. And so that is what drew me to this kind of writing in the first place, I think. I don't think you can really ignore this level and be writing something serious. You always have a level. I don't care in what culture it is. There's always some kind of relationship, democratic, dictatorial, whatever, between the population and its power structure. And that's the story of revolution. It's the story of counter-revolutions. It's what causes war. It's what causes economic inequality, and so on and so forth, which directly affects the very consciousness of the population. And things that change the consciousness of the population, in turn, can overthrow a power structure, or not overthrow a power structure, or a sophisticated power structure can adapt to control better. And I think this is really a central thing about being human, not even about being human, but of being about sentient beings. That cannot be avoided if you're being serious about it.
J'aimerais maintenant, c'est pareil. Quand on a une image, enfin, on a souvent une image, moins maintenant, mais moi, quand je grandissais, on avait une image assez infantile de la bande dessinée, et on trouvait assez peu, en apparence, de préoccupations politiques dans la bande dessinée. J'ai l'impression qu'il y a eu une espèce de Moi, mon repère avant-après, en quelque sorte, dans la BD, notamment dans la BD de SF, c'est Alan Moore, qui, à mon avis, a été un des premiers à vraiment introduire le fait politique de façon presque brutale, notamment avec les Watchmen, mais pas uniquement. Et donc, j'avais envie de demander à nos deux invités scénaristes, qu'est-ce qu'ils en pensaient, et surtout, est-ce qu'ils avaient des modèles, des contre-modèles? Qu'est-ce que vous en pensez?
C'est compliqué, la question est complexe. Oui, Alan Moore, certainement, il marque un temps dans le contenu, certainement. Maintenant, je pense, d'une manière générale, on a toujours tendance, dans les libertés qui nous sont accessibles, à parler de notre présent. Moi, j'ai la chance de mener une série depuis 20 ans. Les problématiques de Carmen McCallum en 1995, quand j'ai commencé, ne sont pas exactement celles d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on évolue, on vieillit. Ça, c'est une chance aussi de travailler sur le long terme. Donc, la politique...
Par exemple, tu lisais Cyberpunk avant de commencer McCallum?
Pardon?
Tu lisais eu Cyberpunk? Tu avais lu des romans Cyberpunk?
Ah, bien sûr.
Gibson, des choses comme
oui,
ça.
Enfin, j'avais lu Philip K. Dick, j'avais lu Norman Spinrad, bien sûr, dans mon adolescence. C'est bien entendu Jack Baron et l'éternité, c'est un bouquin qui a compté pour moi, ainsi que Dr. Blood Money, Philip K. Dick notamment, qui pour moi est un de ceux qui analyse le mieux justement une société en décrépitude.
J'allais venir à Philip K. Dick.
Voilà, bon. Donc oui, on est Fabien et moi, je pense, de génération qui, en tout cas au niveau de la BD, et je pense que les auteurs de romance, c'est la même chose. On est né dans les années 60-70, on est arrivé avec une culture. Moi, je dirais que en tant que Français, c'est Métal Hurlant qui m'a donné une conscience politique. C'est le fait de découvrir Métal Hurlant. Je suis passé de Pif Gadget à Métal Hurlant en 1976. Bon, forcément, il y a un choc.
Je comprends pas, mais... c'est pareil.
Voilà.
Il n'y avait pas un gadget dans Metal Hurlant.
Au début, on s'est changé les. Voilà, puis après, on a parlé d'Alien, quoi. C'est très drôle. Mais donc, voilà, non, on parle vraiment de. Je reviens à ce que je disais, on parle du présent énormément. Et donc, Alan Moore, certainement, mais ça, nous, la manière dont on fait de la BD correspond aussi à une époque où on s'est complètement libéré de plein de choses. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas posé la question, je pense, enfin, je ne veux pas parler à la place de Fabien, mais enfin, moi, je ne me suis jamais posé de voir si je faisais de la BD pour les enfants, pour les adultes, pour les adolescents. On est arrivé justement dans une époque où les choses étaient dites. On n'avait plus trop besoin de se justifier, quand même, enfin, un petit peu moins. Donc, effectivement, moi, j'ai abordé les choses, j'ai parlé de politique, de mes angoisses, mais je dirais peut-être plus. Comme le font les romanciers depuis longtemps. Peut-être on a eu cette chance-là d'avoir des gens qui ont rendu avant nous la BD adulte, finalement. Je ne sais pas ce que tu en penses.
Oui, je suis entièrement d'accord. De toute façon, on s'est mis d'accord que les scénaristes de BD seraient d'accord aujourd'hui pour être en force sur ce plateau. Oui, là où je...
Ce qui est un fait politique.
Ce qui est, exactement, ce qui est déjà une forme de manipulation, d'assemblée. On a un quota, une quasi-majorité. Et je peux acheter Olivier assez facilement, je pense, parce que je sais des choses sur lui. Donc, je plaisante. Non, je suis entièrement d'accord sur le fait qu'une certaine forme d'écriture politique peut être très de son époque et appartenir à cette époque, et puis qu'une autre partie, des fois dans le même livre, peut être complètement intemporelle. Et qu'il faut distinguer les deux, un peu comme on parlait d'un fait objectif et subjectif dans une même personne. On peut aller voir un film et objectivement trouver qu'il a telle et telle qualité et subjectivement aimer telle et telle partie. Je dirais que des fois, dans une seule et même œuvre, il y a des choses qui vont se démoder, mais qui sont extrêmement pertinentes au moment de la sortie du livre, voire qui ont 10-20 ans d'avance. Et puis, il y a des choses qui sont indémodables. Pour moi, ce qui est dit par Golding dans Sa Majesté des Mouches, ça peut être lu et relu, parce que c'est une fable. Et puis, il y a des choses, par exemple, d'Alan Moore, qui me semblent très pertinentes dans une époque donnée, qui peut-être, avec le temps, sans dire qu'elles vieilliront complètement, parce qu'il reste un génie, bien entendu, mais certains éléments vont vieillir, de même que des séries comme Judge Dredd ou des choses comme ça, étaient très imprégnées d'une époque, de Thatcher, de choses comme ça. Et je pense qu'on peut à la fois en tirer la substantifique moelle en disant qu'il y a des choses qui restent entièrement vraies dedans. Mais il y a des choses qui sont tellement en référence avec le moment où ça a été écrit, ou du moins ce que ça voulait dénoncer, ou ce que ça voulait avertir, parce qu'il y a des choses qui sont de cet ordre-là. Je dirais que peut-être, par exemple, même un Orwell avec 1984, il y a sans doute des parties de son analyse qui restent complètement intemporelles. C'est ce qui fait que des philosophes comme Michéa, par exemple, continuent à s'en inspirer énormément. Et puis une autre partie qui était celle de l'époque où ça a été écrit. Donc même un génie aussi comme Orwell, hein, bien entendu. Et dans ce sens, moi, ça m'a amené à me poser des questions sur justement qu'est-ce que je veux évoquer, moi, comme fait politique quand j'écris, même pour des enfants, parce que je crois qu'on peut écrire pour les enfants et parler politique. Je crois même que c'est important. que j'ai eu des grands modèles qui sont même payots avec les schtroumpfs. Ça peut paraître fou, mais le schtroumpfissime, c'est une petite leçon de politique pour les enfants qui m'a fait comprendre des choses sur justement comment faire en sorte de gagner des sortes d'élections. Et puis, il y a des astérix qui sont très éclairants pour ça. Moi, je crois beaucoup qu'il y a un travail à faire justement de pédagogie auprès des enfants et qu'on peut aborder tous les sujets en prenant soin de les formuler d'une manière intelligible et en atténuant un tout petit peu l'aspect traumatisant du réel, parce qu'on ne va pas balancer tout d'un seul coup à la face d'un gamin. On va juste dire, ok, on va te parler de la violence, on va parler de la gravité des choses, de politique, de rapport de force dans un groupe. L'enfant sait spontanément, intuitivement que ça existe, puisque dans une cour de récré, il y a déjà des rapports de politique à petite échelle, de rapports de force, de manipulation. Et donc je pense qu'on peut l'aborder avec eux. Et donc une des questions que ça me posait pour évoquer justement l'accompagnement du politique à l'instant T, la politique maintenant contemporaine et pas la fable à soi-disant intemporelle. Moi la grande question que ça me pose actuellement, c'est celle de tous les mouvements qu'on appelle en transition, villes en transition, qui sont des mouvements écologiques, qui justement viennent un peu répondre à une angoisse de fond qu'on a vis-à-vis de la politique politicienne. C'est ce qu'un auteur dont le nom va me revenir, mais qui a écrit justement le bouquin, c'est Hopkins, Robert Hopkins, qui a écrit « Ville en transition », qui évoque le moment de sidération qu'on a toujours à un moment ou à un autre quand on réalise que la politique politicienne ne nous sauvera pas, en particulier au niveau écologique, qu'en fait les solutions de politique politicienne sont forcément à court terme, que la vision qu'on doit avoir pour une écologie qui nous sauverait à terme, là je suis un peu pessimiste quand je dis ça, mais ça serait des solutions à très long terme, qui viennent donc contredire les solutions court-termistes. Donc le bilan de Hopkins est très sombre. Il dit que la politique politicienne ne peut pas nous aider. Et donc il y a un changement de paradigme qui est en train d'apparaître, qui moi m'intéresse. Et là je parle justement de l'action du citoyen vis-à-vis des politiques politiciennes. C'est de dire que maintenant l'action se ferait peut-être plus au niveau local, au niveau d'un quartier, au niveau d'une école, au niveau d'un village. Et que de là éventuellement une action peut remonter vers la politique politicienne qui elle va s'en emparer si elle voit qu'il y a quelque chose à y gagner. Et ce changement de paradigme, il me semble fondamental en ce moment. Justement, quand on a des désillusions par rapport à la politique, malheureusement, et qu'on se dit, ben, moi j'ai envie de voter, mais je ne sais plus pour qui, parce qu'il n'y en a pas un pour rattraper l'autre, pour reprendre un peu un état des lieux que plein de gens partagent. On peut continuer à croire à la politique, mais on peut quand même le faire d'une manière qui est un peu désabusée, ce qui serait un peu mon cas. Hopkins dit, maintenant, il faut penser à une politique au sens vraiment le plus petit du terme, le plus local du terme. Et comment nous, en tant qu'auteurs, on accompagne ça? Et moi, ça me pose des vraies questions de la différence très subtile entre pédagogie et propagande. Parce que moi, je crois à cette notion du local. Mais si je commence à dire à des enfants, surtout à des enfants, voilà, la solution, c'est ça, le local, c'est ça, qu'est-ce qui différencie mon approche d'une propagande qui, finalement, une propagande, c'est je propage des idées auxquelles je crois. Il y a une réaction de Fred.
Alors, je trouve ça vraiment très bien, très intéressant. À mon niveau, justement, j'essaie de faire un petit peu autrement. Je pense que ce qui manque le plus aujourd'hui au monde, c'est l'appréhension de la complexité. Voilà. Et donc, j'essaye, quand je disais que j'ai évolué dans le fond de mes sujets, c'est qu'au départ, je voulais effectivement taper sur des choses très concrètes. Et aujourd'hui, je trouve que la priorité de la priorité, je me trompe peut-être, hein, mais c'est de dire aux lecteurs, aux jeunes lecteurs, aux adolescents, arrêtez de croire que les choses sont simples, arrêtez de croire que les solutions sont évidentes. On est dans un monde de plus en plus complexe et on a de plus en plus conscience de la complexité du monde en réalité. Et donc, moi j'essaye dans mes scénarios avec les garçons avec qui je travaille et les filles avec qui je travaille, on essaye de bâtir des choses qui mettent juste en scène la complexité. Et je crois que déjà ça c'est une grosse ambition, on essaye. Mais voilà, j'avoue qu'avoir évolué à ce niveau-là, vraiment changé, ça n'empêche que je suis complètement d'accord avec les enjeux écologiques, moi c'est au centre de toutes mes préoccupations. Mais justement, pour essayer de trouver des solutions écolo, eh ben je pense que ça passe par le fait que les solutions sont très très compliquées. C'est ce qui me, je suis pas du tout en posé que ce que tu dis d'ailleurs. On a impact, hein, donc.
Non, c'est ça, on est d'accord. Et juste pour terminer, avant de laisser quand même un peu la parole, pour dire justement, je suis entièrement d'accord avec le fait que comme je n'ai pas envie de faire de propagande, j'essaie de garder une vision du monde qui soit la plus complexe possible, même vis-à-vis des enfants. Ce qui peut être un vrai différent philosophique avec d'autres auteurs jeunesse, pas tous, mais certains, que j'ai entendu en interview dire il faut justement clarifier les lignes de démarcation des choses bonnes, des choses mauvaises à un enfant pour le rassurer. Moi, il se trouve que je suis l'exact opposé de ça. Je veux pas angoisser les enfants, mais je veux répondre à l'angoisse qu'ils ont déjà, que j'avais enfant vis-à-vis de la complexité du monde, de me dire, voilà, tout ça me fait peur. et je sens que c'est complexe, je préfère accompagner l'enfant là-dedans. Du coup, j'ai des personnages qui sont ambigus, et l'exemple type de cette ambiguïté dans la série Soul, c'est un personnage qui s'appelle Saul, qui est clairement, à mes yeux, un petit fasciste et un dirigeant d'opinion, mais comme je l'ai construit de manière complexe, beaucoup d'enfants qui lisent la série le voient comme un des héros. Et ça me pose d'énormes questions. C'est de me dire, bon, bah, j'ai tellement voulu être complexe et subtil que si ça se trouve, il y a un de mes super méchants que les gamins vont adorer. Alors, pour avaler la pilule, je me dis que peut-être en 2017, je serais bien content d'avoir un héros nazi et de pouvoir dire, ouais, bah, en fait, depuis le début, j'avançais comme une taupe. Non, mais le fait est que ça me pose question parce que je vois qu'il y a plein de gamins qui me disent, ah oui, Saul, il est vraiment super. Et quand j'essaie de leur dire, mais pourquoi tu l'aimes bien? Ils me disent, parce que c'est un leader, parce qu'il sait ce qu'il veut, parce qu'il a des solutions. Donc malheureusement, il est apprécié pour les raisons exactes qui me font avoir peur de lui, parce que justement, on sent qu'il y a de la part des enfants une envie d'être rassuré, sauf que je n'ai pas envie de les rassurer à bon compte. Et quand j'essaie de leur dire, mais vous ne trouvez
les
pas...
Les adultes, c'est la même chose.
Oui, c'est ça qui est un peu flippant, c'est qu'effectivement, c'est pareil chez les adultes. Et quand j'essaie de leur dire, mais est-ce que vous vous rendez compte que le personnage est un peu, des fois, il est bizarre, quoi, des fois, il fait des choses un peu dures, ils me disent, il est mystérieux, mais il fait ce qu'il peut. Et donc finalement, ils ont quand même une affection, même pour ces dérives, on va dire, fascisantes. Ils ne le diront pas comme ça, mais ils le pensent un peu comme ça.
Pour rebondir là-dessus, il y a eu à nouveau une espèce de nouvelle culture qui est apparue dans l'imaginaire, dans la BD, dans la science-fiction. C'est la culture venue, la culture du manga, dont Olivier est un fin connaisseur, comme on peut s'en rendre compte quand on lit ce qu'il écrit sur ses pages Facebook ou autre liste de diffusion. Et c'est justement un domaine où le politique est arrivé aussi en même temps que le choc graphique, je pense.
Alors il y a plusieurs choses. On disait donc, Alan Moore, il faut savoir que la vision politique de la BD, elle est très ancienne au Japon. Environ le milieu des années 50. Le manga est politique parce qu'il va y avoir une ouverture. C'est-à-dire ce qui est très intéressant au Japon, qui est une société assez fermée pour faire simple, c'est qu'à partir du moment où c'est de la BD, le manga, ça veut dire image dérisoire, ça veut dire qu'à partir du moment où c'est de la BD, finalement, les auteurs peuvent faire ce qu'ils veulent. Sauf quelques tabous, mais qui sont assez faciles à identifier. Et donc, il y a toute une partie d'auteurs qui ont profité d'une liberté éditoriale pour parler de politique. Et notamment, ils ont voulu s'adresser aux jeunes étudiants, aux jeunes ouvriers, à toute une génération comme ça. Ces générations qui avaient été élevées au manga de Tezuka dans les années 40, et puis tout d'un coup, en vieillissant, devenaient étudiants et donc avaient d'autres préoccupations. Et donc, il y a ce genre de choses qui vont arriver avec des effets massifs, c'est-à-dire que dans les années 60, les militants qui vont faire les grandes manifs au Japon vont dire « Nous sommes tous les Ashita no Joe ». Ashita no Joe, c'est un manga de boxe, mais qui racontait le parcours d'un garçon d'un milieu populaire qui accédait comme ça, etc. Donc c'était politique. Et quand on parlait Astro, par exemple, Astro, le petit robot, Tezuka, on se dit « Ah bah voilà, c'est un Astro, c'est un petit robot, etc. » Chez Tezuka, il y a quand même un propos politique dans le sens où c'est un jeune, voire je fais souvent cette comparaison, c'est-à-dire que dans les années 40, dans les comics, les héros, c'est des héros qui ont parfois fait la guerre. Et dans les mangas de Tezuka, ce sont des jeunes héros. Parce que ça ne peut pas être la génération qui a fait la guerre. Elle est déconsidérée. Donc ce sont des jeunes qui doivent prendre en main le destin du pays. Et en plus, là où Tezuka est subversif et politique, c'est-à-dire qu'il va doter son héros, qui est quelqu'un de très positif, qui est un robot, d'un cœur atomique. Donc il va le doter de cette puissance qui a détruit Hiroshima et Nagasaki. Qui est une manière aussi de dire au Japon, il ne faut pas vous couper totalement de la technologie, il faut la maîtriser, il faut vivre avec. Voilà. Donc il y a un propos politique comme ça, qui est de la vraie politique, un vrai point de vue. Il y aura toujours un point de vue assez humaniste chez Tezuka, dans des tas de choses aussi. Alors là, vu que sur cette table ronde, nous sommes tous des hommes, pour parler quand même un peu de dessinatrices, au Japon, il y a eu aussi dans les années 70 toute une génération de dessinatrices qui ont osé justement remettre en cause le cliché. Donc, vous savez, je ne sais pas si vous le savez, mais dans le manga, il y a en gros, je vais dire, c'est grossement, vraiment simplifié, il y a le manga pour garçons, le manga pour filles. Et donc, traditionnellement, le manga pour filles, c'est des histoires, c'est la pauvre orpheline, puis ensuite, elle se marie, voilà. Et donc, il y a des femmes, des dessinatrices qui en ont eu assez de ça. Et donc, qui ont montré un modèle, notamment aussi des modèles de futur. Il y a une dessinatrice très célèbre qui s'appelle Moto Hagio qui a fait toute une sorte de texte où elle montrait une femme, enfin un extraterrestre qui, si elle réussissait une épreuve, pouvait choisir son sexe. Donc être soit femme, soit homme. Donc vous voyez une manière de remettre en cause l'édifice politique, des séparations de sexe. Voilà, ça aussi c'est des actes politiques. Et c'était de la science-fiction, mais voilà, ce genre de choses qui sont aussi des axes politiques.
Norman, tout à l'heure, vous expliquiez que le mainstream, disons, a abandonné le politique. There's no political in mainstream literature anymore, mostly. And I think your latest novels are maybe less science-fiction and more mainstream, but they are still political, so Is this a way of, I don't know, putting politics or back into the mainstream, maybe?
Maybe. But I never had any use for the idea of genre itself.
Okay.
Mainstream, science fiction, whatever the hell it is. This never motivated me when I started writing speculative fiction. I didn't know any of that existed, and I didn't care about it. The idea was, in this field, you created the reality, and you wrote about it. I mean, some of my novels, something like Enfant de Fortune, this is not politique politicienne, but it's very political in another way. And it's had an effect on many young women, for example. Same thing in a different way with Solarians, which was, okay, so it was space opera. Le Peluche de Peuple is very political. It has its fantasy elements with Loas. It's all mixed together. It's a novel. Jack Baron, again, I don't want to get that whole idea of the new wave, this would take all day, but the basic idea was that genre is a series of straitjackets. It's a series of rules that you either have to follow or not violate. I'm not interested in things like that. That in itself is political. It's the depoliticization of speculative fiction. You can't write about... Jack Baron was first rejected by Doubleday, they said, we can only print this, we can only do this book if you take out all the sex and politics. And I said that'd be a very short novel. Rave d'Affair, right? I mean, it's... Rave d'Affair was understood by most people, and hardly anybody thought it was a Nazi book, except the American Nazi Party, who really liked it, except the ending screwed it for them, where, you know, it tore the whole Hitler's book apart. Roland Wagner wrote a very interesting afterword, or maybe it was a foreword, to one of the editions of Rave d'Affair, about how he had read this book from a kind of, when he was young teenager, coming from a kind of pied noir background, and how it changed his political philosophy. So I would be disingenuous if I said that I don't turn out, I don't want to affect, you know, people's political thinking, people's philosophy, when I'm writing, you know, I'm writing certain books. Other books may not be about that. Le Temps de Rêve is not about that. Boycott and Stale is not about that. Some things are, and some things aren't. But a curious thing about Void Captain's Tale and Child of Fortune is only after I'd finished these books and they had been published that I realized these were anarchist novels. This was a society that didn't have a political structure. It was an anarchist society. And it worked.
Yeah.
But that itself is politics.
Absolutely.
You know, in its broadest, most meaningful sense. So I don't know whether my more recent novels attempt to get back to politics, because what's the dissent? The dissent is from Le Police de Peuple, and then before that, all right, Welcome to Your Dreamtime, which is not politics, but then you have Greenhouse Summer, Blue Common Orange, which is about the morality of really metapolitics and questions of that. So I think I set out to do different things with each novel, but that it's if you write a novel that's successful, it's going to have some effect one way or another on the consciousness of the readers, and anything that affects consciousness is going to affect politics. And anything that affects politics is going to affect consciousness. You can't avoid it. So for me, ultimately, what I've said on numerous occasions is that for me, speculative fiction, science fiction, whatever you want to call it, is basically about the effect of interior consciousness by the environment and the effect of the environment by changes in interior consciousness. So I don't think if you attempt to depoliticize something, you're already politicizing it. You can't do that. Maybe the language is not very good. It's better in French than it is in English. It's easier to understand politique and politique. Politique politicienne in the States, that's not a kind of well understood concept. But even here, you look at it, I was just reading some stuff, an interview that Marine Le Pen did, it was a Parry Match or something like that, about firing her own father. Well, there it is. There's a story, there's a novel. Right.
Yeah, I bet you could write.
That would be a very interesting novel. She's firing her own father for political reasons, which are valid political reasons. And you see, at one point, you said in an interview like that, she was asked, "Well, what about what about your father?" And she said, "Everybody's got a father." That's politics too. We have it in the States now. We have George Bush Père. George Bush Jr., and then we have Jeb Bush. It's a dynasty.
Yeah.
And then you have the Clinton dynasty,
yeah,
versus that dynasty, and then you have the War of the Roses. It could happen. Here, you have a thing here where even the leadership of all parties comes from the same university. They know each other, that's political too. Education is totally political. Where in the United States, during the Vietnam War, the teaching of history in schools stopped at World War II. They didn't want to go any further. That was called atomic bomb, Japanese surrender, and now take the test, and it's over.
Up.
Yeah, that's the end of it. We don't want to talk about the rest of this stuff. You cannot depoliticize fiction, because the act of doing that is also political. This is 1984. This is Soviet realism. This is what this for a long time in the States, and even maybe longer in France, was something that was tried to keep out of science fiction by the publishers, by the libraries, by everything. It was juvenile literature, and it should not deal with this sort of thing.
Don't rock the spaceship.
Yeah, and now, at least in the States, I'm not that familiar with it here, but I've seen enough to think that I am, that even the books that are called young adult books are no longer depoliticized. So that kind of literature, that kind of science fiction, has also gotten more sophisticated and politicized in a positive manner, where this is not an area of human consciousness and human life to be avoided because you're going to pollute the vital bodily fluids of the kids, who are actually probably going to pollute your vital bodily fluids right now. So I never left writing fiction with political content, and I never thought of it that way, because if you're writing about, if you're inventing a world, you have to deal with this. And the more you do, I have my own political agendas. And it's going to be published soon in France, a small book called Raising Hell, which is about unions, unionizing the demons in hell. Now, that's fairly political, although it's fantasy. And that makes a political point. And in the same pamphlet, there is a straightforward political thing that I wrote. Now, in terms of politics and politicien, I forget who said this. It's like, when I want to send a message, I'll send a telegram. If you want to be didactic like that, write, do journalism, write something didactic. Don't write propagandistic political science fiction. It's kind of hard to make the distinction, but I do try.
Ce sera notre conclusion. Nous sommes déjà en train de dépasser, mais je peux laisser la place pour une ou deux questions, s'il y en a. J'en vois une au fond.
Merci pour votre table ronde. Quand j'ai vu le titre, ma première réflexion, c'était que mon premier exemple de politique en science-fiction, c'est Palpatine. Sénateur, chancelier suprême, empereur galactique, et une bonne partie de la saga montre son ascension vers le pouvoir. L'autre partie de la saga, c'est les efforts faits par tous ceux qui veulent se rebeller contre son pouvoir et amener sa chute. Et je me suis dit, quand on amène la chute d'un pouvoir, qu'on veut contrer un système, est-ce qu'on prévoit forcément comment on va le remplacer? Car si la nature a horreur du vide, on n'a pas prévu comment remplacer ce pouvoir absolu. Que nous attend-il à part le chaos et l'anarchie?
Ça, c'est la vraie question de toute la branche des... c'est un vrai problème de science politique, ça, mais réel, c'est-à-dire que quand les pays communistes se sont libérés de la vie communiste, le problème, c'est qu'il fallait que les forces politiques, qu'il y ait une offre politique qui apparaisse. Or, qui étaient les mieux à même d'être performants comme hommes politiques? C'était les communistes qu'on voulait virer. Or, par exemple, dans la Tchécoslovaquie, les gens qui suivaient Havel, qui étaient des artistes, des intellectuels et autres, ils étaient nuls en campagne politique. Et il se trouve que dans la démocratie, c'est les élections qui désignent, et que ces hommes politiques communistes ont continué à rester dans le jeu parce que, justement, ils étaient performants dans les campagnes politiques pour intéresser la population, pour l'inciter à voter pour eux. Donc on est dans ce problème-là aussi, c'est-à-dire que les électeurs, c'est eux qui font les choix. On ne peut pas imposer un modèle, imposer la démocratie, c'est pas possible. Le problème, et on le voit, ce qui se passe en Irak ou autre, c'est-à-dire que, je ne vais pas vous faire toute l'histoire on n'a pas le temps. Mais effectivement, quand on veut renverser un dictateur, il vaut mieux avoir auparavant savoir qui va le remplacer. Et ça, ça s'impose de savoir quelles sont les forces politiques qui sont en présence et savoir où on en est. Or, ça, on ne peut pas le prévoir. Enfin, si on peut, mais c'est aussi des antagonismes et autres. Ça, c'est le jeu de la politique politicienne.
Si l'épisode 7 de Star Wars ressemble à l'Irak, ça va être un gros bordel. Hein. Je me demande comment Abrams va traiter ça.
Look, first of all, just to correct something, it is possible to impose democracy. It was done twice. It was done in Japan, and it was done in Germany by the United States. And it worked. Other times, in the Middle East, it has not worked at all. Without getting too deep into this stuff, there's also the politics, the specific politics of specific science fiction. First and foremost, Star Wars, which to me is royalist fascism of the First Order, geekification of faceless robot warriors to kill, and they are fighting what? It's the Empire against the... What are they against? The other Empire. This is so much... Well, all right, this is Rave the Fear. So much of this stuff is, in fact, that kind of so-called heroic fiction is, in fact, fascist stuff. I always say that it's no accident that space opera was popular at the time that Hitler was really into Wagner. And that's why I wrote Rev... That's one of the reasons I wrote Rev the Fear. And when you see this with Star Wars, it's real. I found that from the beginning very disturbing, because there it is, and it's done as adventure stuff, and then it becomes games that kids play, and it is extremely political, and it's quite fascist as far as I'm concerned. Fascist, not in the economic sense, but in the
Sur ces propos provocateurs à dessein, nous allons conclure notre table ronde en espérant que vous nous aurons, sinon informés, du moins distraits. Voilà.
Merci.